biologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe Arimaud, le 28 mai 1995, deuxième conférence.
Ce n'est plus l'objet, c'est la méthode. C'est très joli comme expression latine, la materia circoqua. Je trouve ça très très joli, ça. Et au fond, aujourd'hui, c'est le champ de recherche. Partie de la philosophie. physique. Il n'y a pas de cause propre de ce qui est en tant qu'il est au niveau de la cause efficiente. Et donc, les voies d'accès à l'égard de Dieu ne peuvent pas s'appuyer sur la cause efficiente. Je sais très bien qu'en disant ça, par rapport à tout le thomisme traditionnel, Jean Doja, et même à Rome, à l'Angélique, j'ai fait une fois une conférence à l'Angélique là-dessus, alors tous les vieux pères, mais mon père, vous allez contre toute la tradition, je dis, ça m'est égal, la tradition philosophique, il n'y en a pas de tradition philosophique. Ce sont des opinions. C'est vrai, il y a une tradition divine, mais il n'y a pas de tradition philosophique, quoi. Il y a des perroquets. On doit tout le temps tout redécouvrir. C'est ça qui est fatigant, du reste. On ne répète pas. Et on est tout le temps dans la recherche de ce qu'est l'homme et de ce que représente la découverte des causes propres de ce qui est. Si on veut faire de la philosophie première, alors ça m'a toujours beaucoup intrigué. Aristote, Thomas d'Aquin, tous les deux le disent, l'homme n'en a tenu absolument aucun compte. Alors que quand on sait ce qu'est Aristote, quand on sait ce que Thomas d'Aquin, quand ils sont si nets et qu'on voit la tradition dire juste l'inverse, il y a aussi thomiste. C'est curieux, ça. Mais ça donne dit textuellement comme cause propre. Au point de vue de l'être, il y a uniquement selon la forme et selon la fin. C'est pour ça que la métaphysique est la science la plus simple qui soit. C'est pas étonnant, elle se rapproche de Dieu. Donc, c'est la plus simple. Plus vous rapprochez Dieu, plus vous devenez simple. Quand on a les marécages, il y a beaucoup de moustiques, causalité efficiente, qui vous piquent à droite et à gauche. Alors, comprenez bien, où découvrez-vous la cause efficiente? Vous en avez l'expérience constante, je vous ai dit, quand vous grattez, quand vous prenez des notes, vous êtes cause efficiente de ces notes, c'est évident. Stylo ne marche plus pour que vous tapez sur l'épaule du voisin, et donne-moi une plume, ça va plus. Causalité efficiente. Un résultat, le travail. L'artiste qui travaille. Le sculpteur qui travaille. L'artisan qui travaille. En usine, le travail. On travaille une matière. Une matière. Et dans la mesure où cette matière est riche et puissante, l'œuvre sera d'autant plus forte. Et on la travaille, causalité efficiente. Je découvre la causalité efficiente par le travail. Donc la cause efficiente se découvre à partir du devenir, à partir de la croissance. Partir du mouvement. Tout ce qui est mu par un autre, nous le verrons tout à l'heure. Alors le terrible équivoque, tout ce qui est mu par un autre, il est mu par la cause efficiente et en dernier lieu par la causalité efficiente, c'est celui qui court après. Quelquefois, on court après. On va avoir sa proie. On est chasseur, on court après. Et on a des chiens de chasse, on court après. La causalité finale attire de manière de faire l'apostolat. On court après, on attire. Causalité efficiente, on court après. On prend les mœurs de celui parmi les roucous. Parce qu'on va à tout prix garder le contact. À un moment donné, il y a eu la spiritualité du contact. Alors, il faut être très fort pour la spiritualité, pour ne pas être changé en celui avec qui on garde le contact. Ça, c'est la causalité efficiente. La causalité efficiente, elle se découvre dans le devenir. Quand je suis en face de l'être, il n'y a plus de causalité efficiente. Il est. Il est déterminé. Il est finalisé. Il est. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cause propre. Quand je dis cause propre, c'est le fruit d'une analyse. De cause propre de ce qui est en tant qu'il est. Or, alors c'est ça, historiquement. Hein. Or, tout de suite après Thomas d'Aquin, Don Scott affirme causalité finale métaphorique. Donc, symbolique, si vous voulez, métaphorique, symbolique, elle ne touche pas le réel. Elle reste uniquement intentionnelle. Celui qui dit « Seigneur, Seigneur, je t'aime », et puis jamais il se salue les mains, et qui reste loin. Alors, la causalité finale, si elle n'est que symbolique, si elle n'est qu'intentionnelle, elle reste dans son domaine immanent. Elle n'est efficace que par la causalité efficiente. D'où, on dira tout de suite, elle est métaphorique. La métaphore n'agit pas. La métaphore, causalité exemplaire, ne peut pas plus. C'est très beau. Tandis que la causalité efficiente est un contact. D'où, puisque la causalité finale n'a plus le réalisme. Parce que ceci est vrai pour le devenir. Pour tout devenir, c'est très vrai que la causalité finale n'est efficace que par la causalité efficiente. Mais pas pour l'esprit. Et c'est là la grande chose. Pas pour l'être. L'être, et c'est le propre de l'être, distinct du devenir, que je saisis à l'intérieur de tout devenir. L'être comme tel implique détermination, donc ce qui est premier selon la forme, finalité, ce qui est premier selon la fin. Et l'être est au-delà du devenir. Donc il n'y a pas de causalité propre du devenir, pas de causalité propre efficiente quand j'analyse l'être. Par le fait même, je ne peux pas remonter jusqu'à l'être premier par la causalité efficiente. Puisque le devenir n'a pas de premier. C'est parce que le devenir existe qu'il y a un premier. C'est l'existence du devenir, ce n'est pas le devenir. Le devenir comme tel, vous savez, c'est comme celui qui donne toujours l'exemple, ce qui a été plus reste donné. Qu'est-ce qui est premier, la poule ou l'œuf? Pour remonter à définiment. Et c'est vrai, dans la causalité efficiente, pour remonter à définiment. Il n'y a pas de premier, vous êtes dans la relativité. Et dans la relativité, il n'y a pas de premier. Pour remonter indéfiniment. Il n'y a qu'au niveau de l'être qui est déterminé, qui est, qu'on ne peut pas remonter indéfiniment. Et qu'on découvre la finalité. La finalité se découvre. important, venez. Et au fond, ça a été cette grande découverte grecque. Une découverte très importante. La différence entre ce qui est mu et ce qui est. Entre le devenir et l'être. C'est une des grandes découvertes de la philosophie, ça. Et de la philosophie grecque. Et je crois que, là encore, quand on est tout à fait au terme, on voit qu'il y a quelques positions. Il n'y en a pas 36. J'aime à ramener tout à ça. Les rapports entre le devenir et l'être. Ce qui est mu. Seule chose que je peux mesurer, le devenir, et donc l'être est noyé dans le devenir. C'est la position hegelienne. Tout est dans la dialectique. Tout se ramène à la dialectique. Et la troisième position, celle d'Aristote, thank you. dit que le premier, c'est la recherche. Il faut tout le temps. Hein. Merleau-Ponty disait, je n'aime pas de parler aux catholiques parce qu'ils savent. Mais, tandis que j'aime la recherche. J'aime ceux qui recherchent et qui n'ont pas découvert. C'est cela intéressant. Et c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un qui est dans la recherche, qui recherche tout le temps. Mais quand vous cherchez tout le temps sans rien découvrir, c'est assez fatigant. Bon. Alors, vous voyez, causalité efficiente lors de la recherche. Mais elle doit être finalisée. Et quand je découvre la fin, je découvre l'ordre de perfection. Si je biffe la fin, je suis un errant. Je fais la route. Je fais la route. Pourquoi ? Je fais la route. Tu n'as pas d'autre finalité que de faire la route. Je cherche. Et je suis heureux de rien découvrir pour pouvoir chercher. Puisque je découvre, la recherche s'arrête. Et je suis incapable de saisir la finalité. C'est très curieux. Hein ? L'imagination est l'adversaire numéro un de la découverte de la finalité. Parce que le propre de la connaissance imaginative, c'est d'être dans le mouvement. Constamment. Constamment. Sans jamais rien découvrir. Une image appelle autre image, et indéfiniment. L'intelligence découvre ce qui est. Et ce qui est implique la bonté, la finalité. Alors, nous allons continuer, parce qu'il faut quand même... Mais c'est important, ça, c'est pour ça que je crois que c'est très important de bien comprendre que la causalité efficiente, c'est dans l'ordre du devenir, et que dès que je suis dans l'ordre de l'être, la causalité finale, la causalité efficiente doit se taire. Mais c'est rude, parce que quand vous regardez la manière dont le thomisme a explicité les voies de saint Thomas, c'est toujours par la causalité efficiente. Bon, on me l'a présenté comme ça quand j'étais étudiant, au Solchoir. Et après l'exposé du professeur, j'étais jeune étudiant, je ne comprends rien à ce que vous dites. Expliquez-moi. C'est inintelligible. Et je crois que ce que dit saint Thomas est intelligible, mais c'est inintelligible ce que vous dites. C'est même contradictoire. Alors le pauvre professeur, je ne nomme pas puisqu'il vit encore, élevé les bras au ciel, dit « Je vous donne saint Thomas ». Et je dis « Mais vous devez donner saint Thomas en le comprenant. Si vous donnez saint Thomas sans le comprendre, je peux le lire moi aussi. » Et ça a été pour moi personnellement l'occasion de revenir à Aristote. On n'enseignait pas Aristote. Je dis, Thomas d'Aquin a voulu revenir à Aristote en face d'Avicenne qui était le roi. Albert le Grand est resté à Avicenne et saint Thomas a voulu revenir à Aristote. Donc il y a là quelque chose qui va me permettre de comprendre Thomas d'Aquin. Et quand je me suis plongé, il faut du courage pour se plonger dans Aristote seul. Mais c'est merveilleux. On ne l'enseignait pas ce soir. Et c'est une erreur, parce que la philosophie doit revenir à la source. Et je ne peux pas découvrir la philosophie à travers la théologie. Parce que l'ordre du théologien n'est pas l'ordre du philosophe. Le théologien part de la foi et le philosophe part de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai eu une fois très longuement un dialogue avec des psychanalystes freudiens que j'aimais beaucoup, qui étaient des gens très intelligents. Parce qu'ils ont dit, vous, votre philosophie repose sur l'expérience. Je dis oui, elle est nous, notre recherche aussi. Donc on doit pouvoir s'entendre. J'en suis sûr qu'on doit pouvoir s'entendre. Si on cherche, les uns et les autres à découvrir ce qu'il y a de vrai dans l'homme, la vérité dans l'homme. Moi, ça m'a beaucoup appris. Parce que autre chose est lire Freud, autre chose est voir un freudien qui fait son métier et qui essaie de le faire le mieux possible. Et son amour qu'il a pour ceux qui viennent de voir. Ça, c'est très grand. Alors, il faut essayer de voir où il y a une différence entre l'expérience du philosophe et l'expérimentation, l'expérience clinique. Je me souviens, c'était très, très curieux. Parce qu'on avait dit, on va quand même amener des amis, parce que si vous êtes quatre médecins freudiens, et que moi, je suis avec un autre philosophe, un ami. C'est pas très drôle. On risque de se tirer les cheveux au bout d'un certain temps. Alors on va amener des amis. C'est ce qu'on a fait. Alors comme ça, on est au moins une vingtaine. C'est déjà quelque chose. Alors à peine les amis partent, je me retrouve devant eux. Réaction spontanée, mais très gentille entre nous. Oh, celui-là, il aurait besoin d'un petit coup de psychanalyste. Alors, je me suis fâché. J'ai dit, écoutez, on a dit qu'on amènerait des amis et non pas des clients. Et c'est vrai, c'est pas la même chose du tout. Un contact amical. Et ça a été très éclairant, parce qu'à partir de là, j'ai montré l'expérience. L'expérience philosophique, on regarde ce qui est. On essaie de regarder ce qui est, dans toute sa pureté. En élaguant tout a priori affectif. Ce qui est très difficile. Hein. Tandis qu'au contraire, un client, c'est celui qui souffre, qui a telle maladie, tu vois, qui croit avoir telle maladie. Et vous regardez ça. Oui. Vous regardez l'homme à travers ça. Et c'est ce qu'on lui demande, ce qu'on vient pour ça. Dans un ami, on regarde la personne. Et c'est ce qui intéresse le philosophe, c'est la personne. Ce qui intéresse le psychanalyste, c'est la blessure de la personne. Pourquoi de fait, cet individu qui est un brave homme, dès qu'il y a un tournant, il tombe dans le fossé. Je prends ça. Dès qu'il y a telle ou telle chose, il tombe dans le fossé. Il n'arrive pas à dépasser certaines choses. C'est les dépassements qui sont difficiles. Alors, continuons. Cette recherche, troisième voie d'accès. Voyez, pour ceux qui connaissent les cinq voies de Thomas d'Aquin, pour ceux qui connaissent les cinq voies de saint Thomas d'Aquin, on a cet ordre là. Je dis ça pour que vous puissiez à la fois comprendre l'unité de pensée et la diversité de position. Saint Thomas donne les cinq voies en théologien dans la lumière de la foi. C'est comme ça que l'Église l'a reçu. Hein. Et dans un aspect critique, est-ce que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu ? Si l'intelligence humaine n'est pas capable d'atteindre l'existence de Dieu, la théologie scientifique n'existe pas. C'est du reste pour ça qu'on n'accepte plus Thomas d'Aquin. Venez, parce que ça n'a plus de sens. Alors, pour Thomas d'Aquin, la première voie, elle se prend du mouvement. Ce sera pour nous la dernière. La seconde, du plus et du moins. La troisième, du possible. La quatrième, c'est le point de vue aussi du plus et du possible, mais c'est le point de vue de la perfection. Et déficiente. C'est vraiment la causalité finale. Mais ça, c'est mon interprétation. En réalité, pour nous, voilà l'ordre que je prends. Premier. La seconde. La recherche de la vérité. Ce que nous allons voir maintenant, l'amour. Mais je n'y tiens pas tellement à cet ordre-là. Je pourrais très bien commencer par deux ou trois, et puis celle-là, troisième. Vous voyez, l'axe. Et ça, c'est très net dans la pensée de Thomas d'Aquin. L'axe des cinq voies, c'est le point de vue du possible. Je suis un être qui aurait pu ne pas exister. Je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons découvrir ça. Hein. Je suis un être qui aurait pu très bien ne pas exister. Donc, j'existe, mais en moi, il y a une possibilité de corruption. Je suis un être corruptible. Je suis voué à la mort. Et au fond, c'est ce que nous essayons de voir hier. Limite dans mon je suis. Alors saint Thomas ne part pas du je suis, ça je suis d'accord. Mais saint Thomas ne donne pas un ordre de recherche, un ordre génétique, non, pas du tout. Saint Thomas donne une vision critique pour montrer qu'entre l'intelligence et l'existé de Dieu, il y a un lien, voyez, un cordon ombilical métaphysique. Le cordon ombilical métaphysique, c'est l'exister. Et c'est l'ordre qui existe entre le possible et l'être en acte. Et ce cordon ombilical a cinq manières différentes de le regarder. Ça, c'est dans les cinq voies de saint Thomas. Saint Thomas est terrible. La voie la plus classique, même du temps de Thomas d'Aquin, avec Albert le Grand, c'était saint Anselme. Et actuellement, en Sorbonne, saint Anselme, on l'aime encore. De Thomas d'Aquin, on n'en parle plus. C'est très, très curieux. Saint Thomas, au début de son œuvre, critique saint Anselme. Dans la somme, il n'en parle plus. Fini. Donc, la troisième voie que nous allons voir, ici, je suis celui qui cherche la vérité. Il y a du plus et du moins dans la qualité. Maintenant, je suis celui qui aime. Je suis un être aimant. J'aime quelqu'un. J'aime un ami. Mais c'est une expérience de mon je suis. Parce que quand je suis, quand j'aime, je suis entièrement engagé. Quand je cherche la vérité, je suis entièrement engagé. C'est le meilleur de moi qui cherche la vérité, je le sais. Et je dois laisser tomber beaucoup de poussière pour chercher la vérité. Alors on part de la grande expérience de l'amour. Saint Thomas, lui, regarde l'appétit naturel. C'est ça qui est très intéressant. C'est de voir qu'au fond, l'appétit naturel, je le retrouve à travers mon je suis dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, parce que c'est l'amour.
Confession de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe Arimont, le 28 mai 1995, 13e conférence.
Pour comprendre les cinq voies, vous avez fait l'analogie hier avec la fumée. C'était pas une analogie, c'était une comparaison et un exemple. Donc c'était une analogie métaphorique. Je souligne ça parce que l'exemple qu'on peut donner illustre, mais n'est pas un principe. Oui. Donc c'est intéressant les exemples. Pour les rhéteurs, pour les avocats, c'est capital. Dans l'enseignement, c'est très important. Mais l'exemple n'est jamais un principe. ça, c'est là où la description est la plus facile et la plus importante. Je peux décrire longuement ce que c'est que l'amour d'amitié. En éthique. Et c'est vrai que je crois que c'est là où je découvre en premier lieu, de la manière la plus explicite, la fin. Parce que l'artiste, l'œuvre est une fin, en ce sens que le travail s'arrête là. Mais ce n'est pas une fin, au ce sens où ça finalise totalement l'artiste. Parce que l'artiste est conduit par une inspiration. Et l'inspiration mesure son travail, dirige son travail. Donc, à ce moment-là, on peut dire que c'est dans l'inspiration qu'il aura sa finalité, plus que dans l'œuvre. Il peut critiquer son œuvre, parce qu'elle ne réalise pas exactement ce qu'il aurait voulu faire. Et parce que l'œuvre ne réalise pas exactement ce qu'il aurait voulu faire, l'œuvre ne finalise pas entièrement. C'est ce qu'il aurait voulu faire qu'il finalise. Mais l'idée artistique est mesure de l'œuvre. Et tout artiste sent ça. Il n'est jamais satisfait de son œuvre. Les autres disent magnifique, étonnant, lui. Il sait qu'il aurait voulu faire quelque chose de plus et de plus grand. Tandis que dans l'amour d'amitié, on découvre vraiment une finalité. Celui que j'aime, je l'aime pour lui-même. Et je sais qu'il m'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime, je peux agir avec lui en toute liberté. Vous agissez avec une liberté beaucoup plus grande quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous aime. Quand vous êtes en face de quelqu'un que vous ne savez pas s'il vous aime, vous cherchez à savoir. Posez quelques petits problèmes pour voir, quelques petites interrogations pour voir jusqu'où va son amour. Si on peut, on ne peut jamais entièrement. Il y a toujours quelque chose qui dépasse mon intelligence dans l'amour, puisque l'amour n'est mesuré par rien que l'amour. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Retenez cette parole de Saint Bernard, que Thomas d'Aquin a repris, et qui est très forte, qui est le réalisme même de l'amour. C'est l'ami qui finalise. C'est l'ami qui est source de mon amour et qui lui donne tout son sens. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que cet amour d'amitié qui est un certain absolu en lui-même est limité. L'ami peut mourir. C'est la terrible limite de l'amour d'amitié sur la terre. Je sais que la mort ne mettra pas fin à mon amour, mais l'exercice de mon amour, qui est indispensable à mon amour, va être tout autre. Et lui va en prendre un gros coup, puisque je ne pourrai plus le voir, on ne pourra plus coopérer, on ne pourra plus échanger, on ne pourra plus dialoguer. Et donc, tout l'échange qui est si riche dans l'amour d'amitié disparaît. À l'intérieur de l'amour, et que l'amour ne veut pas. Si je pouvais faire que mon ami ne meure jamais, je le ferais tout de suite. Ça, c'est sûr. Et j'ai là une limite. Donc, tout ce qui est limité en puissance dépend de ce qui est en acte. Mais c'est toujours ce principe-là qu'il faut saisir. L'amour est un acte. n'en mettrait pas, lui. Il est donc limité en lui-même par quelque chose qui n'est pas lui. Il dépend d'une bonté qui, elle, est sans limite et qui est première. Et c'est pour ça qu'en face de l'amour d'amitié dans cette expérience, si je l'illumine par le principe de finalité, je peux tout de suite dire qu'il existe nécessairement un bien antérieur, personnel, puisque l'ami est une personne et une bonté personnelle, qui n'est que bonté, qui n'est qu'esprit, qui n'est qu'amour. Là aussi, c'est très impressionnant d'avoir conscience de la grandeur de l'amour d'amitié, mais en même temps de sa limite. Et que cette grandeur, cet être en acte limité, exige par lui-même un dépassement. De poser un être qui est au-delà, qui transcende. Alors vous voyez, essayez de comprendre cette démonstration, là encore dans tout le réalisme de l'amour d'amitié. Parce que l'amour, la grosse objection, vous voyez, c'est l'objection qu'on fait aux voies d'accès de saint Augustin. Saint Augustin donne deux grandes voies d'accès, la vérité et l'amour. Mais il les donne, non pas en disant « je suis amoureux, je suis cherchant la vérité », il prend l'amour et la vérité. En platonicien, un peu platonicien saint Augustin, il est resté un peu jusqu'à la fin de sa vie. Et d'une façon merveilleuse, comme un chrétien, un saint. Mais ces voies d'accès vis-à-vis de Dieu, c'est très beau. C'est beaucoup plus ample que celle de saint Thomas. Mais il y a quelque chose qui blesse. C'est que quand j'essaie d'aller jusqu'au bout, comme la vérité. Or, je ne peux pas passer de l'intentionnel à l'exister. C'est l'erreur de l'ontologisme. C'est la tentation de l'ontologisme. Alors, comment puis-je dire « je suis amoureux, j'aime cet ami » et que cet amour-là me permet de poser un être existant et pas uniquement une valeur. On a découvert dans les inédits de Husserl à Louvain qu'à la fin de sa vie, Husserl se posait la question de l'existence d'un être premier. Parce que durant sa vie, ça ne se voit pas beaucoup. Et ça fait partie de ses inédits. Vous savez, la richesse de Louvain, c'est d'avoir les inédits de Husserl. Husserl pose alors une valeur suprême. Mais il reste au niveau valeur. Donc, il a bien compris que l'amour, c'est la grande valeur. Dans le langage d'Husserl, je ne dirai jamais ça. L'amour n'est pas une valeur, c'est bien plus. C'est ma vie. La vérité n'est pas une valeur. C'est ma vie. seulement de l'extérieur. J'ai une vision toute différente. Une vision d'intériorité. Et ceux qui ne le voient que de l'extérieur, je leur dis, les pauvres types, ils ne voient pas grand-chose. C'est vrai, quand vous regardez à la glace, vous ne voyez pas grand-chose. Et les autres vous voient comme ça. C'est désastreux. Alors, quand vous aimez quelqu'un, vous le regardez de l'intérieur. Faites plus tellement attention au regard extérieur. Oui, vous en faites attention, vous dire, mais tu es bien fatigué aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et cette fatigue dure déjà depuis un certain temps, il y a donc quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est le regard de l'ami, de l'extérieur. Oh oui, il est fatigué, j'ai rien. Il s'est couché trop tard hier. Non, il est fatigué. Demain, ça ira mieux. Mais vous passez. L'ami s'inquiète. Parce qu'il veut toucher la réalité, pas rester dans l'intentionnalité. C'est ce qu'il y a de très difficile dans la philosophie moderne, de la phénoménologie, c'est qu'on reste dans l'intentionnalité. Mais dans l'amour d'amitié, puisque vous touchez l'ami, et que c'est l'ami qui donne le sens à mon amour d'amitié, par l'ami, je touche le réel. Je suis l'ami de cet ami. Et c'est par là que je touche le réel et donc que je peux découvrir un ami parfait. C'est très curieux comment l'amour d'amitié est en moi ce qui me met le plus proche. Véritable ami, celui qui n'est qu'ami. Quand je découvre mon ami, il n'est pas qu'ami. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit drame. Parce que quand on aime quelqu'un, on voudrait qu'il ne soit qu'ami, mais il ne le sera jamais. Quand on aime quelqu'un, on voudrait le connaître, et il y aura toujours un fond radical qui m'échappe. Une potentialité. Je ne suis pas totalement en acte. Et pourtant, c'est là où, au point de vue de mon expérience, je suis le plus en acte. Je suis plus en acte quand j'aime mon ami, quand je recherche la vérité. Et je voudrais que l'ami soit totalement saisi par mon amour. Et il ne l'est pas. Il peut mourir. Il peut avoir des activités qui le mettent loin de moi. Et je voudrais qu'il soit présent. Et je voudrais qu'il soit là. Et qu'il soit tout relatif à mon amour. Et qu'il soit lui, l'ami. Vous voyez, les limites de l'ami, telles que je le saisis par mon amour d'amitié. Manifestation pour moi, si je le regarde dans la lumière du principe de finalité, qu'il est nécessaire que cet ami sens, l'amour est extatique. Et donc l'amour me fait porter sur l'autre. Les deux dernières fois, du point de vue des opérations vitales, là aussi, je ne dirais pas que n'importe quelle opération vitale me permet de poser l'existence de Dieu. Au fond, en réalité, est-ce que manger, me nourrir, voir, sentir, me permet de poser tout de suite l'existence de Dieu? La vie, comme vie, est immanente. Et donc, elle ne me fait pas découvrir tout de suite l'existence de Dieu. Dieu n'est pas présent, vous comprenez ce que je veux dire, hein, immédiatement à ma vie. Tandis que Dieu est immédiatement présent à mon intelligence, à ma pensée et à mon amour d'amitié. C'est pour ça qu'il y a là quelque chose de sacré. Tandis que la vie végétative n'est pas du sacré. La vie végétative devient du sacré par la procréation. Alors elle est sacrée. Parce que le fruit, la vie végétative, la procréation appelle le concours de Dieu. Direct, création de l'âme. La vie autrement n'est pas immédiatement sacrée. C'est important ça, de bien faire la distinction entre les deux. Autrement, j'aboutirais à la vache sacrée. J'aboutirais à des grandes choses. C'est des choses qui sont très importantes. Je me souviens avoir discuté longuement. dans la vie végétative, la procréation, la nutrition, l'équilibre vital et l'organisation vitale, eh bien, là, je touche quelque chose de très important qu'il faudrait très développer aujourd'hui. Parce que cet ordre vital qui est à l'intérieur de la vie est nécessairement possible que dès la conception jusqu'à la mort, il y a une organisation qui a fait que le petit fœtus progresse de telle manière. Et je crois que quand on regarde attentivement ce que les savants disent sur le développement du moment de la conception jusqu'à la naissance, mais c'est prodigieux. C'est impossible que ce ne soit pas pensé par quelqu'un. Alors voyez, alors là, c'est le point de vue de l'ordre. L'ordre est le fruit d'une intelligence. L'ordre n'est jamais premier. Et vous retrouvez la finalité. Fruit de la pensée, mais un fruit finalisé. Et comme c'est à l'intérieur d'un vivant que je vois ce développement, et ce n'est pas le vivant qui l'explique, puisqu'il le subit. C'est vrai. C'est pas moi qui ai organisé le développement du premier moment de ma conception jusqu'à ma naissance. Je ne m'en rappelle même plus. Et je ne l'ai jamais conçu. Mais je peux le regarder. Je sais que j'ai vécu ça. Et donc cet ordre que je vois au point de vue vie exige une première pensée. Et une pensée capable de faire subsister un autre. Donc une pensée qui n'est pas de l'ordre de l'intentionnalité, mais qui est de l'ordre de l'être. Une pensée créatrice de sagesse. Parce que l'ordre n'est pas premier. Et la dernière voie, c'est le mouvement du monde, c'est l'ordre dans le monde physique. C'est pas la même chose. L'ordre, voyez, du vivant et l'ordre cosmique qui est présent en moi. Les anciens disaient que le corps humain était un petit cosmos. Et c'est vrai. Il est en harmonie avec notre univers. Et en retrouvant lui des éléments semblables à tout l'univers. C'est ce qui fait, du reste, vous savez bien, chez les biologistes aujourd'hui, c'est ce médecin qui me le disait, quand il fait des congrès pour la vie, il en fait chaque année. Il voit toujours les deux tendances. Alors la tendance qu'ils disent spiritualiste et la tendance matérialiste. On ramène l'ordre vital à l'ordre physique. Or, on sait très bien que l'ordre physique n'est pas l'ordre vital. L'exemple de la mort. L'exemple de la mort. Immédiatement, très peu de temps après, c'est la désorganisation de la cathédrale de molécules. Il y a quelque chose qui est perdu. Principe d'unité. avait son ordre propre. Il a perdu cet ordre propre. Et alors il est ramené à un ordre cosmique, physique, qui n'est plus du tout le même. Cet ordre existe, et il existe en moi. Je fais partie du cosmos. Il y a en moi un ordre physique qui est commandé par l'ordre de qui est commandé par l'ordre de la vie. Et cet ordre de la vie est commandé par le point de vue de l'intelligence et de l'amour. Vous voyez, je monte dans les différents ordres. Et au fond, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est qu'il y a un ordre au niveau du mouvement physique, un ordre au niveau du mouvement vital, un ordre au niveau de l'être, un ordre au niveau de l'amour, un ordre au niveau de la vérité. Et c'est peut-être cela qui nous aiderait le mieux à comprendre le principe de finalité. Tout ce qui est ordonné implique une finalité. Mais en réalité, quand vous dites tout ce qui est ordonné implique une finalité, ça revient radicalement à dire tout ce qui est en puissance dépend de l'acte. Et donc la dernière voie, c'est cet ordre